séminaire du fonds de dotation de l'école aux études, donc séminaire qui a commencé, la première séance a eu lieu au mois de mars, la dernière aura lieu au mois de décembre prochain, et séminaire qui est consacré, comme vous savez, aux expériences des accélérations, un titre qu'on peut être plus vite avec un point d'interrogation, expérience des accélérations. Et c'est au mois de mars, enfin mars, c'est Olivier Remeau qui avait ouvert au fond le questionnement, la question du temps qui manque et du temps qui reste. Et aujourd'hui, on va rentrer sans doute dans des objets un petit peu plus concrets avec Patrice Bourret. Donc je remercie beaucoup d'avoir accepté de parler ce soir donc, dans ce séminaire. Sur la question de la gouvernance des épidémies, son titre est affiché, donc « Urgence, délibération et résistance ». Voilà, donc Patrice Bourdelais va parler comme d'habitude, je pense, enfin, c'est le schéma du séminaire, 40-45 minutes. Bora lui a imposé 45 minutes strictement, il a l'intention de se tenir absolument à cette feuille de route. Et puis on aura, comme d'habitude, une heure pour lui poser des questions, pour discuter un peu avant de boire un verre de champagne, peut-être même en buvant un verre de champagne, ce qui sera plus agréable encore. Voilà, et bien Patrice, je te laisse très volontiers la parole, te remercie encore.
Bien, merci beaucoup de cette invitation qui m'a permis de me replonger dans mes travaux de longue durée, j'allais dire. Alors au départ, je dois dire que ça m'a, le thème m'a un peu surpris, au moins deux secondes, je me suis dit... accélération, pourquoi s'adresser à moi, pourquoi faire, veut-on qu'on parle du vieillissement de la population, ou du vieillissement tout court, accélération du vieillissement, ça, mais c'est Olivier Remeau qui a traité le thème d'une certaine manière, et ensuite je me suis dit au fond, si on parle d'accélération, il vaut mieux que je choisisse mon autre sujet favori, c'est-à-dire les épidémies. Les épidémies, une relecture au fond, des logiques de gouvernance des épidémies, en partant de ce que j'avais pu faire dans mes ouvrages, mais en le remaniant de façon relativement importante. Et donc, au fond, voilà. Ce qui occupe notre imaginaire aujourd'hui, quand on parle d'épidémie, c'est plutôt la mort et la désorganisation sociale. Avec un corollaire qui est en général toujours le ralentissement des relations d'échange, voire l'arrêt des relations d'échange. Donc on est loin des accélérations, puisque on est plutôt sur l'opposé, c'est-à-dire le ralentissement de toute la vie sociale et des grands échanges. Et puis, au fond, on peut se dire que, quand même, les épidémies rentrent bien dans ce sujet des accélérations parce que leur progression est caractérisée par, précisément, des vitesses, des marches. Vous savez, autrefois, on disait au 19e, on disait la marche de l'épidémie. Et la marche est plus ou moins rapide, elle est plus ou moins accélérée ou en décélération. Et il y a là tout un domaine, d'ailleurs, d'études qui a beaucoup intéressé à la fois les historiens et les contemporains médecins. Et puis, dans l'histoire des épidémies, on a aussi une autre constante, ce sont les procédures d'alerte. Au fond, depuis l'Antiquité, alors je ne vais pas traiter du sujet depuis l'Antiquité, je vous rassure tout de suite, mais tout de même, depuis l'Antiquité, on gère une sorte de course de vitesse, au fond, entre les alertes, où l'épidémie est démartelle, est-elle grave, entraîne-t-elle beaucoup de décès, et puis les mesures à mettre en place pour essayer de limiter les effets de l'épidémie. Donc, je vais revenir, je vais développer tous ces aspects-là. C'est toute la mise en place des dispositifs, dans lesquels on le verra, il y a des intérêts divergents. Entre des logiques collectives, publiques, et des logiques privées, individuelles, voire commerciales, marchandes. Et puis, une autre dimension de ces accélérations, c'est que, et là, c'est depuis l'Antiquité quand même, Hippocrate et Galien sont là, face aux pestes, terme générique, la règle du jeu, c'était quand même de partir le plus tôt possible, le plus loin possible, et longtemps. Je traduis tout ça. Voilà, c'était quand même aussi une forme de mise en compétition des courses de vitesse entre l'épidémie et la réplique. Alors, l'autre côté remarquable, c'est qu'en temps d'épidémie, il y a une créativité administrative, une forme d'accélération des mises en place de nouvelles institutions, de nouveaux petits conseils, de nouvelles mesures. Alors, il y a création accélérée, évidemment, et multiple, mais qui se heurte très vite, selon la période que l'on considère, aux lenteurs délibératives. Dès que vous créez un conseil, il est relativement large, les opinions sont opposées, diversifiées, pour le moins. Donc, pour aboutir à un texte écrit qui donne des recommandations, par exemple, à la puissance publique, on souhaiterait que ça soit fait en 3 jours. Compétition de vitesse dont je parlais tout à l'heure, et puis finalement, il faut 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Donc, il y a tous ces aspects-là qui sont tout à fait intéressants et qui concernent surtout le 19e siècle. Et puis, il y a aussi, puisque, mais ça, je ne traiterai pas vraiment en détail, il y a aussi l'accélération de la création artistique. À un moment de grande épidémie, vous avez toujours... les plumes se délient, j'allais dire. Donc, vous avez publication de beaucoup de romans. La Bocasse, si on pense à une grande peste de l'époque médiévale, mais vous avez plus près de nous beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits à l'occasion de l'épidémie de sida, d'autres qui ont été écrits ou repris ou inspirés à partir Le chercheur de toi, par exemple, de Genot, à partir des épidémies de choléra du 19e siècle. Puis vous avez aussi une prolifération, une accélération de la création artistique romanesque et picturale. Alors j'en ai le choix, d'avoir intégré quelques exemples. Bon voilà, je ne vais pas le traiter, donc je le produis comme ça en début de conférence, si vous voulez. Voilà l'une des plus fameuses scènes de danse macabre, La Chaise Dieu, 1450. Donc vous voyez, on est là à un siècle du début des grandes épidémies de l'époque médiévale, et avec des retours périodiques, évidemment, des principales épidémies, et ça aboutit à ce type de création, à des phénomènes sociaux sur lesquels je reviendrai, comme les flagellants, mais qui sont la mise en exacerbation quand même, à la fois de l'égalité et de l'inégalité sociale aussi, de l'égalité de traitement, parce que on a l'impression que là, finalement, quel que soit le statut, chaque femme ou chaque homme face à son destin, et l'épidémie fauche sans distinction. Et puis, vous avez aussi, pour sauter un peu, 2, 3 siècles, 4 siècles, c'est une... Alors, le 19e, c'était quand même le grand siècle de la caricature et de la presse. Hein. Vous n'oubliez ça non plus. Et ça pèse en termes de représentation, évidemment, de caractérisation des représentations. Vous avez là une caricature qui a été publiée au moment du choléra. Qui est traité comme un événement, une occasion de débat et de combat politique, en fait. C'est la principale caractéristique du choléra à plusieurs reprises au 19e siècle. Et ça, bon, c'était pas pour le titre, mais c'est pour l'image en dessous, qui associe vraiment le choléra vagabond un peu bleuâtre qui vient de loin à l'événement politique, aux barricades et à la révolution. Mais c'est une parenthèse pour vous dire qu'on aurait pu, au fond, quelqu'un aurait pu aussi s'emparer de ça. Dire il y a accélération de la création artistique liée aux épidémies. Bon, mais voilà, je vais parler d'autre chose finalement. Je vous donne ici l'organisation de l'exposé, 3 parties. Donc je vais d'abord traiter de l'alerte. Comment alerter, prévenir, protéger, prendre l'épidémie de vitesse. C'est ça la constance, si vous voulez. Alors je me suis lancé dans une aventure, quand même, c'est que je vais traiter d'une période qui va de la peste noire à la grippe H1N1, et je n'ai pas fait de plan chronologique.
C'est fâcheux.
C'est fâcheux. Très fâcheux. Ouais, je me suis dit, allez, je parlais de chronologie à l'intérieur de chacune des parties, évidemment, mais la première entrée n'est pas de ce type. Ensuite, je parlerai d'aspects qui sont liés à ce que j'ai appelé tout à l'heure l'accélération de la créativité administrative aussi, avec les tentations d'une normalisation sociale qui passe par une coercition et en réponse des contournements, voire des résistances de la population. Donc là, il y a des effets tout à fait dynamiques, si je puis dire. Et puis enfin, je terminerai par quelque chose qui est plus banal d'une certaine façon, mais qui se répète avec une régularité telle que ça vaut sans doute la peine de s'y arrêter un instant, c'est l'accélération et la multiplication des travaux médicaux, des hypothèses au moment des grandes épidémies. Voilà, de la peste noire à la grippe H1N1, et j'essaierai de parler seulement des épidémies et pas des endémies. Même s'il y a des endémies qui ont été aussi graves que sur le plan de la mortalité que des grandes épidémies, par exemple la tuberculose au 19e siècle, fin 19e siècle, elle fait à peu près 70 000 morts par an. Donc en 2 ans, vous avez à peu près le nombre de morts de l'épidémie de choléra de 1854. On parle, mais l'effet n'est pas le même. Voilà, c'est une épidémie bien installée, si je puis dire, qui est devenue une endémie et qu'on gère différemment. Donc je resterai vraiment sur, au fond, la peste, la variole, le choléra, la grippe, ce qui flambe un peu. Donc, premier point, donner l'alerte, prévenir et protéger, prendre l'épidémie de vitesse. Ça, c'est assez impressionnant. Donc, je pars de l'époque médiévale, excuse-moi, je ne remonterai plus jusqu'à Hippocrate et Galien. Ce qui est impressionnant, c'est qu'au fond, dès l'époque médiévale et avant la peste noire, déjà, toutes les grandes places et les grandes maisons de négociants italiens avaient des consuls d'affaires, et puis chacune des villes, des états cités avaient aussi des consuls dans des grandes places, mais les deux réseaux se superposaient relativement bien, et les deux réseaux étaient très attentifs à l'identification du début des épidémies. Alors c'est pas très surprenant, parce que quand même globalement, même si c'est une règle comporte des exceptions. Toutes les grandes épidémies meurtrières sont venues pendant très longtemps et régulièrement du bassin oriental de la Méditerranée. Or, les puissances, les grandes cités italiennes commerçaient avec le bassin oriental de la Méditerranée. Donc, elles étaient très vigilantes sur le début des mortalités observables dans les diverses villes de ce bassin oriental. Donc l'alerte, c'est très important, et ça conduit, ce sont ces alertes répétées qui conduisent assez vite à l'idée qu'il faut mettre en place des dispositifs de prévention. Alors il y a les dispositifs de prévention anciens, un peu classiques, j'allais dire, les purifications physiques, morales des villes. Donc si vous voulez, on nettoie les marchés, on arrête de laisser de la viande de boucherie dans les rues, on exclut les prostituées de la ville. Bon, on organise quelques cérémonies religieuses. Et les collègues anglais ont beaucoup travaillé sur cet aspect des choses, sur le fait qu'il y a une forme de transversalité entre purification morale, d'une certaine façon, et purification hygiénique, si je puis dire. Et puis, c'est à l'époque jusqu'à... Voilà, c'est la peste noire, hein, par exemple, plus les pestes récurrentes ensuite. Et ensuite, le système de prévention, Il repose sur l'identification toujours de l'alerte dans les ports dans lesquels les bateaux qui commercent en Orient peuvent relâcher. Et chaque bateau, chaque capitaine de bateau doit arriver en Europe occidentale avec des lettres patentes qui certifient que lorsqu'il a fait sa dernière escale, il n'y avait toujours pas de mortalité particulière dans la ville portuaire considérée. Donc ça, c'est une des formes de protection. L'autre forme de protection qui vient ensuite, c'est évidemment si les lettres patentes disent l'inverse, c'est-à-dire c'est si il y avait une petite mortalité, par précaution, on va organiser des quarantaines, le système des quarantaines que vous connaissez, qui donne ensuite la construction de lazarets pour que les quarantaines se déroulent quelque part. Alors je dois avoir un lazaret quelque part là, assez spectaculaire. Voilà, c'est marrant. À Minorque, c'est un lazaret quasiment français, puisque Minorque au XVIIIe siècle, c'est un lazaret très tardif. Et Minorque à un moment a été française, donc il est d'inspiration française. Voyez l'espace du lazaret, c'est quand même conçu comme étant un endroit dont on ne s'échappe pas. C'est une forme de forteresse à double mur. Voilà, les doubles murs, vous avez une double enceinte. C'est la protection ultra connue, vous savez, des médecins de peste qui se protègent à la fois le corps par un lourd tablier, qui protègent leur respiration, j'allais dire, par ce grand masque, l'aquabec, le masque protecteur, et qui sont munis de cette baguette pour éviter de toucher directement les hommes et les choses. À une époque où, évidemment, on ne parle pas vraiment dans les termes, j'y reviens tout à l'heure, mais dans les termes que nous connaissons, nous, de contagion ou de non-contagion. Les choses ne sont pas aussi bien caractérisées ni définies. Vous avez là, tout ça se met en place pour préciser les choses. Entre 1350, là, lettre patente, cordon sanitaire, quarantaine et lazaret, je vais revenir sur les cordons sanitaires, 1350 et puis 1450. Voilà. Mais en Espagne, assez vite. En Italie, pardon, assez vite. C'est-à-dire avant la fin du XIVe siècle. Les cordons sanitaires, c'est la protection, puisque lettre patente, quarantaine, lazaret, c'est la protection du côté mer, si je puis dire, hein, le commerce qui revient d'Orient. Les cordons sanitaires, c'est la protection terrestre. Ça consiste à boucler la ville et à éviter que des personnes étrangères, venant de régions éventuellement contaminées, ne puissent entrer dans la ville. Alors, évidemment, tout ça reste en place. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Ce système reste en place pratiquement 5 siècles. C'est-à-dire qu'on est fin 14e siècle, il reste en place jusqu'en 1850. C'est le grand système lourd qu'on a beaucoup critiqué, et à mon avis à tort, puisqu'on se plaît tous à dire oui, les quarantaines, ça ne servait pas à grand chose. D'ailleurs, il y a eu des pestes régulières tous les 30 ans, tous les 15. Sauf que les pestes auraient été probablement beaucoup plus nombreuses s'il n'y avait pas ce système en place. Parce qu'une grande peste tous les 30 ans, ça veut quand même dire que tous les ans, les centaines de bateaux qui revenaient de Byzance, des côtes grecques et autres, et de la mer Noire et d'Égypte, étaient arrêtés quand ils étaient contaminés et que de temps en temps ça passait évidemment. Mais ça passait pourquoi ? Parce que les intérêts ne sont pas convergents. Quand vous êtes grand marchand, que vous ramenez, vous rapportez des draps, des tissus précieux d'Orient et pour les foires de Beaucaire par exemple, dans la vallée du Rhône. Les foires de Beaucaire ont lieu la semaine prochaine et que vous êtes arrêté par une quarantaine de 40 jours, donc hein, vraiment, selon Hippocrate, à Marseille, vous ratez les foires de Beaucaire. Et donc, ça vous fait une perte sèche, assez difficilement acceptable. Donc, vous essayez de faire descendre en douce du bateau un certain nombre de ballots de ce qu'il y a de plus précieux à vendre sur la foire de Beaucaire. Et c'est comme ça que vous avez une peste qui rentre à Marseille. Donc on a là, si vous voulez, on y reviendra, je pense, plus loin dans l'exposé, mais on a là la tension qui existe entre la volonté d'alerte et de prévention, de prendre l'épidémie de vitesse bloquée avant qu'elle n'arrive, au fond, et puis les intérêts. Les intérêts du quotidien. Alors je parlais des grands marchands, mais quand vous êtes journalier, petit journalier, et que les récoltes sont à faire à 10 km à l'extérieur de la ville, ben vous avez tendance aussi à vous débrouiller pour contourner les cordons sanitaires pour aller travailler, gagner votre vie et revenir. Voilà. Donc, si vous voulez, on a dans les archives énormément de témoignages, hein, c'est un peu banal là, ce que je dis, mais ça concerne pratiquement toutes les grandes pestes et toutes les grandes villes. On aurait la même chose sur Reims, avec les étudiants qui reviennent dans leur famille. Alors, évidemment, de temps en temps, ça se passe mal. C'est-à-dire qu'il y a des morts au passage, quand même. Et quand je disais tout à l'heure coercition, c'est une coercition qui va jusqu'à au fait de tirer sur la personne qui essaie de traverser le cordon sanitaire. Il y a des cordons sanitaires qui ont été performants, le plus performant. Au fond, il y a deux grands exemples. Trois grands exemples. Le premier, c'est quand Charles Quint change d'échelle de protection. Au lieu de protéger Barcelone, il décide de protéger la Catalogne. C'est un énorme dispositif en place, évidemment. Ça fait des centaines de kilomètres au lieu de 50. Et il protège la Catalogne. Le deuxième grand exemple, c'est à l'époque de Colbert. Vous avez, et là, c'est vraiment, si vous voulez, ça permet de relire Foucault d'une certaine façon de temps en temps. Vous avez vraiment un État qui fait son possible pour rendre prospère à la fois la région textile de la Champagne et celle de la Normandie, Rouen, etc. Et qui, à un moment donné, ben, lors de la Grande Peste, hein, la Grande Peste qui se termine par l'incendie de Londres en 1767, alors, cela dit, les lignes de ces cordons sanitaires sont déplacées 7 fois. C'est-à-dire qu'il y a c'est la volonté, ça veut dire publique, qui l'emporte en dépit du coût, parce que un cordon sanitaire sur 300 km, alors c'est à ce moment-là qu'on construit le fameux mur de la peste que vous pouvez encore voir en Provence, vous savez. C'est un coût considérable. Mais au 18e encore, début 18e, on ne parle pas de coût, on fait l'opération, on maintient les cordons sanitaires jusqu'à ce que l'épidémie recule. Voilà. Alors, là j'ai segmenté vraiment, parce que les dispositifs de protection moderne, c'est exactement l'opposé. Alors on peut tout dire, on a tout dit d'ailleurs, du passage de l'un à l'autre, d'un système à l'autre. C'est ce qu'on appelle l'English system, ce qui est déjà un mauvais signe. Vous savez, quand les Français commencent à reprendre une expression en anglais, l'English system. Bon, ou bien néo-quarantaine. Alors néo, c'est pas non plus très positif. De quoi s'agit-il ? Eh bien, le virage s'opère avec les épidémies de choléra de la première moitié du 19e siècle. Ces épidémies, globalement, vont arriver cette fois-ci non pas par le bassin de la Méditerranée, mais par le nord de l'Europe. C'est-à-dire que la route venant d'Asie, donc vous imaginez Bengale, pratiquement un Bengale, Brahmapoutre, par là, ça remonte avec les grandes caravanes vers la Caspienne, puis ensuite vous avez la route nord vers la Belgique, et puis une voie terrestre qui permet, finalement là aussi c'est une question de vitesse et d'équation, hein. Ce sont des modèles épidémiologiques qu'aujourd'hui on connaît bien, c'est quand même le rapport entre la vitesse, le nombre de personnes, les contacts avec les personnes, etc., qui permet de faire en sorte que l'épidémie se propage ou pas. Et ces épidémies-là, 32, 48, 54, elles arrivent par le nord. Et donc, les Anglais sont les premiers concernés, si je puis dire. Alors, jusqu'alors, ils avaient mis en place un système qui leur convenait assez bien, puisqu'ils contrôlaient Malte et Gibraltar. Donc, au passage, escale de tout bateau venant de du bassin oriental de Méditerranée à Malte ou à Gibraltar, il y avait une inspection sanitaire qui était faite et un premier tri. Et ensuite, à l'arrivée en Angleterre, normalement, il n'y avait pas trop de problèmes. Mais là, évidemment, ça n'a pas été le même cas de figure, puisque les bateaux et la contamination arrivaient de la Baltique en direct. Et c'était quasiment les premiers Européens occidentaux à devoir se prémunir contre l'épidémie, ce qu'ils n'ont pas fait. Mais ils n'ont pas fait pourquoi ? Alors là, si vous voulez, c'est là que les choses peuvent être déployées un peu, parce qu'à la fois, tous les régimes occidentaux avaient évolué vers, on va dire pour aller vite, des régimes plus libéraux, et que toutes les anciennes contraintes, cordon sanitaire, quarantaine, lazaret, étaient considérées comme, au fond, des caractéristiques d'État autocratique, et qu'on ne pouvait plus supporter de telles mesures à ce moment-là. Donc ça, c'est l'une des formes, l'une des explications, si vous voulez, qui permettent de rendre compte de la différence de position entre des autorités qui, au début 18e, reculent 7 fois en 2 ans les cordons, mais les maintiennent jusqu'au bout, et des autorités qui, au fond, commencent à dire « Oh oui, mais non, les quarantaines sont vraiment... On ne peut plus de nos jours. » Bon, voilà. La civilisation a progressé, l'état d'esprit aussi. Puis ça va contre la liberté de mouvement des personnes. Donc c'est là qu'on boucle un peu avec le libéralisme du moment. Hein. La liberté de mouvement des personnes, des marchandises. Et donc, les explications un peu simplistes, brutales, au début... chez les historiens, il y a une trentaine d'années, c'était de dire, bah oui, voilà, c'est le libéralisme économique qui ne supporte pas qu'on entrave la marche des échanges et qui donc laisse passer les épidémies au lieu de les contrôler. Bon. Mais, alors c'est un des paramètres, c'est pas le seul. L'autre paramètre, c'est que ce qui se passe en 1830-1832, c'est que l'épidémie donc, arrive par la Baltique et puis elle arrive aussi par voie de terre de Russie, vers l'Empire austro-hongrois. Et donc, l'Empire austro-hongrois, mais c'est. Voilà. Les Anglais diraient, ben oui, vous voyez, voilà, c'est un État autocratique. Mettre en place un grand cordon sanitaire, l'ancien, sur 400 km de frontière, en nord-sud, pour éviter que le choléra progresse. Très bien. Ça génère, alors c'est pas très efficace, mais je vais revenir sur ce point tout de suite, mais ça génère des troubles importants. Certains officiers de ces cordons sanitaires sont tués par la population et des révoltes s'ensuivent. Donc on a un ordre social, si vous voulez, qui est mis en cause du fait de l'organisation de ce dispositif qui reste ancien, mais qui était encore utilisé à ce moment-là. Puis, dernier point, ce sont ces conseils délibératifs. Ces conseils délibératifs en Occident, et en France en particulier, après la Révolution française, on en a plusieurs qui se mettent en place, et vous avez en particulier les deux académies, l'Académie de médecine et l'Académie des sciences, et puis des conseils de salubrité centraux à Paris, dans les ports, les intendances sanitaires. Et nouvel événement épidémique, les médecins doivent donner leur position. Ils l'avaient donné sur la peste, cette fois. Mais là, ils sont requis. Et évidemment, comme les choses ont évolué, comme au XVIIIe siècle s'est développé tout ce qu'on appelle le néo-hippocratisme, donc qui, au fond, considère que l'environnement pèse autant sur la naissance et la propagation de l'épidémie que le génie épidémique lui-même. Mais tous ne sont pas sur cette position, mais ils sont dominants quand même. Vous allez avoir deux grandes écoles, l'une qui va dire non, au fond, la contagion, pour eux, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'ils le définissent, la différence entre contagion et épidémie, ce qui pour nous n'est plus tout à fait clair. La contagion, c'est une maladie, une épidémie du type variant. Là, on peut l'observer très clairement. Et là, c'est vraiment de la relation d'homme à homme, de la contagion directe. Pour le choléra, c'est une épidémie, et ce que ça veut dire, c'est que le choléra est donc une maladie qui dépend, en gros, de la météo et de l'environnement. Et vous avez énormément de publications à ce moment-là qui essaient de suivre les mouvements atmosphériques, par exemple, ou le sens du vent pour expliquer la propagation de l'épidémie de choléra. Et donc, évidemment, à partir de ce moment-là, si vous voulez, tout est rassemblé pour commencer à contester le vieux système de protection. Si les épidémies progressent avec les vents, l'humidité, les brouillards, etc., la quarantaine, puis les cordons sanitaires, finalement, on peut s'en passer. Alors évidemment, comme les cordons sanitaires ont toujours été dans l'histoire à un moment ou à un autre, même quand ils fonctionnaient, dépassés et débordés par l'épidémie, le premier dépassement en Pologne a été considéré comme la preuve empirique de ce qui était avancé par toute une partie de la médecine du moment. Et vous voyez bien que ça ne marche pas d'ailleurs. Voilà. Il y avait un cordon sanitaire et il a été débordé parce que ça ne sert à rien de freiner la circulation des hommes et des marchandises. Et c'est sur ce socle-là, vous voyez, qui est assez complexe quand même, parce qu'il y a effectivement la non-acceptation par des sociétés plus libérales des vieilles contraintes coercitives, l'empêchement de circulation, il y a des intérêts marchands et évidents, et puis il y a l'ordre social aussi qui est de temps en temps mis en cause par ces mesures que la population n'accepte plus, et puis enfin il y a l'incertitude scientifique, puisque vous avez des corps médicaux qui sont partagés sur la nature de la maladie, son origine, et au fond, ceux qui parlent le plus fort et qui sont le plus écoutés, ce sont les néo-hippocratiques qui pensent que le choléra, par exemple, on parle de cette épidémie-là, est une épidémie au sens qu'ils donnent au terme à ce moment-là, c'est-à-dire vraiment une maladie transmise par les vents, les brouillards. Donc, tout est prêt pour changer de système. Et c'est ce qui se passe en Angleterre vers 1850, ça se met en place entre 1850 et 1860. Ça va consister à, au fond, abandonner l'idée d'opérer une protection de zone, si je puis dire, une protection globale, en disant de toute manière, il s'agit d'épidémies. Donc la protection d'un cordon sanitaire ou quarantaine est moins efficace qu'on ne le pensait, moins efficace que pour les pestes, visiblement. Donc observons les individus. Et du coup, alors il ne faut pas oublier que les Anglais ont toujours leurs deux stations qui fonctionnent, hein, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, quasiment à Malte et à Gibraltar, quand même, pour contrôler un peu l'état sanitaire des bateaux qui remontent. Et du coup, à l'arrivée en Angleterre, ils demandent au capitaine une déclaration individuelle des malades. Les malades déclarés sur le bateau sont placés dans ce qu'ils créent, alors ce sont les fever hospitals, donc des places, des lieux hospitaliers où toutes les personnes atteintes de fièvre sont concentrées. Et ensuite, les autres, alors c'est un système évidemment complètement théorique et qui ne peut pas être complètement appliqué, c'est une surveillance individuelle, c'est-à-dire que la personne doit signaler tous ses changements d'adresse et avant de quitter le bateau, carrément, quasiment, dire jusqu'où elle va, par quelle ville elle passe et quel est son domicile final. Donc, il y a des archives qui donnent ça, mais on voit bien qu'en temps d'épidémie, c'est simplement ingérable. C'est cette technique, cette façon de procéder qui aboutit du côté américain, à Ellis Island, au dépistage. Et le premier dépistage bactériologique contre le choléra, précisément, est effectué à Ellis Island sur le choléra de 1884-85. Donc voilà, tout un système. Et nous sommes aujourd'hui, finalement, rester dans ce système de néo-quarantaine, c'est-à-dire d'observation individuelle, de surveillance individuelle, et pas davantage. Alors, au point que ce sont les individus eux-mêmes qui jouent, en général, sur deux ou trois cas récents, c'est visible, la rupture des relations. Au moment du SRAS, il n'y avait plus personne dans les avions pour Hong Kong. Ce n'était pas les compagnies aériennes qui avaient annulé leur vol. C'était vraiment les voyageurs qui avaient décidé de s'abstenir. Et je me souviens alors que les médecins, parce qu'il y avait pas mal de missions, évidemment, et chaque fois que j'étais confronté à un médecin d'aujourd'hui, il disait de toute façon, les quarantaines, ça n'a jamais marché, ça ne sert à rien. Donc il y a vraiment ancré dans l'esprit des médecins jusqu'à aujourd'hui le fait qu'autrefois, tous nos systèmes de protection globaux ont été inefficaces. Ce qui, à mon avis, est complètement faux. Mais bon, voilà. Et d'ailleurs, ce que les médecins savent appliquer quand il le faut, quand ce n'est pas dans un pays d'Europe de l'Ouest ou développé, quand c'est au Congo et qu'il s'agit de se protéger contre Ebola, on boucle la zone, on laisse mourir les gens au milieu, en gros, on tue ceux qui veulent sortir, et voilà. Donc c'est aussi avoué que d'une certaine manière, la régulation à l'ancienne a ses vertus, mais pas pour nous. Voilà. Et, pas pour nous, et d'ailleurs, vous savez, la préhistoire, si je puis dire, de l'OMS, c'était ces conférences sanitaires internationales qui commencent vers 1850 pour se terminer à la Seconde Guerre mondiale. Et l'objectif essentiel de ces conférences internationales a été, qui était dominé par les grandes puissances occidentales, en particulier la France et l'Angleterre, a été de charger les autorités turques au nord et égyptienne au sud, de sécuriser sur le plan sanitaire le bassin oriental de la Méditerranée. C'était très simple, toutes les mesures concernaient ce bouclage, si je puis dire, et donc la manière aussi de traiter toutes les personnes qui faisaient des pèlerinages à la Mecque et dans les lieux saints de l'islam. Et moi, je pense personnellement que le racisme fondamental, à un moment donné, contre l'islam et les Arabes, en gros, s'est construit dans la deuxième moitié du 19e sur tout ça. Sont des gens sales, qui ne se lavent pas. Enfin, ça, j'en parlerai plus tard, mais j'anticipe un tout petit peu. Ils font des pèlerinages, ils créent des épidémies où il n'y en aurait pas, etc., etc. Donc, c'est vraiment une image de l'autre, si vous voulez, comme du danger absolu. Alors que si vous lisez les gens comme Dejnet, qui a été quand même médecin en chef des armées de Napoléon au moment de la campagne d'Égypte, il n'a pas du tout cette perception. Pas du tout. Et il y a une perception plus égalitaire de l'autre, au fond, du musulman, de leurs pratiques sanitaires, des risques aussi, mais bon. Et les choses changent, à mon avis, vraiment avec l'intensification d'une politique internationale de protection et de la mise en place de principes hygiéniques purement occidentaux. Enfin, parce qu'on a vraiment des textes très durs, très très durs, impubliables aujourd'hui. Voilà, alors, le vaccin, le dépistage. Et au fond, pour en arriver, puisque je vais dire un mot quand même du vaccin, pour en arriver à l'époque contemporaine, ou presque, au moment de la grande grippe ratée de 2009, pour la première France, c'est ça qui est à moitié drôle, pour la première fois en France, on avait décidé, quand même, les autorités avaient décidé de faire une grande politique de masse, d'hygiène publique et de protection contre l'épidémie. Bon, avec vaccination massive dans les gymnases, enfin, des queues partout au début. Et évidemment, c'est tombé un tout petit peu à l'eau parce que l'épidémie n'a pas eu lieu, tout simplement. Et que les gens, s'apercevant que l'épidémie n'avait pas lieu, ont abandonné, si je puis dire, l'idée même d'aller se faire vacciner dans les gymnases. Je ne sais pas, en novembre ou décembre, on a vu les courbes fléchir, comme ça, il n'y a plus la queue dans les gymnases. Alors, Et j'en arrive au vaccin. Parce qu'il y a, dans cette affaire, le vaccin, il est reconnu, admis par la population, adopté au moment de... Enfin, avec Génère, il faut pousser un petit peu, je veux dire, dans toutes les régions dominées par l'Empire français, donc par exemple, même en Belgique, on demande aux autorités de se faire vacciner publiquement, enfin, toutes les préconisations habituelles pour entraîner la population, mais au fond, très vite, la population s'aperçoit de l'efficacité du vaccin. C'est-à-dire qu'elle s'aperçoit que les enfants ne meurent plus dans les trois villages où les gens se sont fait vacciner, et qu'en revanche, là, l'épidémie a fait énormément de morts dans ces villages où il n'y avait pas eu de vaccination. Donc le basculement en faveur d'une vaccination, si vous voulez, il se fait très vite en Suède, mais la Suède, ce n'est pas la France, hein, quand même. Mais bon. En Suède, il y a dès 1818, je crois, le taux de couverture est de 90%. En fait, c'est... Bon. Mais les vaccinations sont faites par les curés, dans les paroisses. Intéressant. Intéressant. Et en France, quoi qu'on en ait dit, quand on a refait des calculs, vers 1810-12, le taux de couverture, ou à la fin de l'époque napoléonienne, on va dire pour être plus schématique, le taux de couverture, il est de plus de 60%, ce qui est quand même énorme. Et puis il diminue ensuite. Il diminue ensuite parce que l'insistance des pouvoirs publics n'est plus à l'heure. Et puis les premiers accidents commencent à être visibles, et puis on découvre que tardivement qu'il faut revacciner une deuxième fois, donc à l'âge du jeune adulte, et pendant 10 ans, 15 ans, il y a des cas de personnes de 35 ans qui avaient été vaccinées, et donc personne ne comprend. Il y a un moment d'hésitation avant de se percevoir qu'il faut revacciner. Bon. Et au moment du H1N1, Ce qui est spectaculaire, parce que c'est quand même la première fois que ça a été fait à cette échelle-là, c'est la volonté de produire des vaccins en masse, le plus vite possible, pour vacciner la population, avec cette préemption des États qui pouvaient acheter et préempter des stocks de vaccins au détriment de ceux qui ne pouvaient pas, parce que c'est toujours sympathique, mais... Voilà, et là, pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce qu'en fait, subitement, il est devenu public qu'il y avait eu, dans ce phénomène-là d'urgence, d'accélération, une ouverture par les pouvoirs publics de conditions mises sur le marché beaucoup plus souples qu'auparavant. Et en fait, ça a suffi à lancer tout un nouveau débat sur la vaccination, alors qu'en France, il n'y avait pas de vrai mouvement anti-vaccinatoire. Au Danemark, oui, en Angleterre, oui, dès la fin du 19e. En France, il y a toujours quelques uberlus qui s'agitent contre les vaccins, mais jusqu'à 2009, c'était relativement marginal. Et puis tout d'un coup, il y a eu l'hépatite B. Absolument. Oui, juste avant, il y a eu.
Il y a une association qui existe depuis 1950 ans.
Oui, mais bon, ça existe. Mais ça n'occupe pas beaucoup de place dans les journaux, dans les médias, alors que là, vraiment, avec l'hépatite B, vous avez raison, j'avais oublié ça, parce que j'étais sur les épidémies, avec l'hépatite B, plus le cas du vaccin de H1N1, on a eu vraiment un retour sur les médias d'un mouvement vaccinatoire et de porte-parole tout à fait massif. À tel point que je ne suis pas sûr que cette année on ait récupéré le niveau de couverture, pas encore. Voilà. Donc, il y a eu un abandon des pratiques de vaccination contre la grippe pendant 4 ans, quoi, pratiquement. Alors, ça remonte, hein, petit à petit. Mais, voilà. Donc, ah oui, j'étais beaucoup trop bavard. Deux, les tentations d'une organisation sociale, j'en ai heureusement déjà parlé un peu. Coercition, contournement, résistance, je vous ai parlé de tout ça, au fond, tout à l'heure, en parlant à la fois de l'interruption des échanges dans le vieux système de quarantaine, des mobilités, des intérêts divergents avec, qu'il s'agisse de nos grands négociants ou des travailleurs qui veulent aller gagner leur vie. Voilà. Et au fond, oui, là j'avais fait un rapprochement un peu brutal entre le comportement des élites pendant la peste, qui s'enfuyaient dès qu'il y avait un bruit de peste à proximité, et puis nos chers voyageurs au moment du SRAS qui sont pas partis simplement. Ils n'ont pas pris les vols qu'ils avaient prévu de prendre. Voilà. Donc, évidemment, dans toutes ces périodes, vous avez une succession de peurs à la fois rationnelles et quelquefois pas tout à fait. Je parlais des mouvements de flagellants au moment des grandes pestes, mais c'est vraiment quelque chose voilà, qu'on ne connaît plus. Quoique, tout est possible. Ça ne sera pas en Europe occidentale, mais ailleurs dans le monde, peut-être. Voilà, vous savez bien qu'au moment de H1N1, quand même, c'est l'Égypte qui a décidé d'abattre tous les porcs. Hein.
Oui.
En deux jours, ils ont dit, bon, allez, c'était la fièvre porcine. Oui. Elle avait été dénommée comme ça aussi,
oui. Hein,
par les Américains. Et donc, immédiatement, c'était un bon moment de mise aux normes aussi. Bon. Et les révoltes, vous en avez au fond tout le temps. C'est-à-dire que dès que vous avez une grande épidémie et qu'il y a ou que vous êtes sur des dispositifs qui ne sont plus acceptés, comme j'ai dit tout à l'heure pour le choléra en 1831-32 sur la frontière de l'Empire austro-hongrois, ou qu'il s'agit d'une période politique mouvementée, où il y a instrumentalisation de l'épidémie sur le plan politique par tout le monde, par tous les acteurs, par tous les partis, par la population, bon. Et c'est ce qu'on connaît aussi au moment du choléra. C'est ce qui donne cette multiplication d'ailleurs de caricatures très politiques en 32, puisqu'en 32, c'est bien, vous avez au pouvoir Louis-Philippe, que les royalistes traditionnels traitent de régicide dans leur caricature, vous avez les bonapartistes qui sont toujours là à veiller, vous avez les républicains qui auraient bien voulu le pouvoir mais qui n'ont pas réussi à l'obtenir, donc tout ça fait un mélange explosif et vous avez des morts à Paris à cause de révolte. Donc heureusement j'en avais déjà parlé parce que sinon je m'aperçois que j'ai parlé 45 minutes quasi. On peut me donner un petit peu
quelques minutes encore de conclusive.
Les tentations d'une normalisation sociale, je vous en ai parlé aussi au fond, avec les comportements responsables, l'individualisation, respecter les règles d'hygiène qui sont de plus en plus strictes, voilà, et les populations qui ne les respectent pas sont vraiment en dessous de tout. Ça, c'est la montée de la représentation de l'oriental comme d'un danger public. Même avant qu'il ait d'abord, si, il y a peut-être des barres déjà. Et puis la question de la vaccination, dont j'ai heureusement parlé aussi tout à l'heure. Bon. Alors, du coup, je vais quand même dire quelques mots de ce dernier point qui mériterait d'être développé. La constance entre la peste noire, si vous voulez, et aujourd'hui, c'est que les médecins sont à toutes ces époques mobilisés par les pouvoirs publics, je vais dire, pour aller vite, ou par les autorités locales, afin de préconiser des formes de défense contre l'épidémie, et éventuellement, mais plus toute défense contre, et éventuellement ensuite de traitement. Donc toute cette image d'Épinal un peu sur les médecins ridiculisés, les médecins de Molière, si vous voulez, d'une certaine façon, sont complètement erroné. C'est-à-dire que vous avez un système au Portugal qui est exemplaire sur ce plan-là et qui date des premières années du XVIe siècle, 1502-3, où la monarchie portugaise décide de taxer les grandes villes. Ces taxes, elle ne s'en sert pas parce qu'elle a d'autres revenus à l'étranger. Il y a l'Empire qui est en train de permettre de remporter pas mal de ressources. Donc ces taxes, elles les utilisent comme des bourses permettant aux étudiants des villes qui ont cotisé de faire leurs études à Coimbra, puis d'être affectés en priorité dans les villes qui ont été taxées. Donc c'est quand même un système très organisé pour qu'il y ait des médecins dans les villes. Enfin, c'est pas le médecin ne sert à rien, c'est un rigolo qui fait autant de morts que de... Hein, c'est pas ça du tout. Et on voit bien à l'époque de la peste noire déjà à quel point les autorités papales, mais les autorités royales aussi, demandent aux médecins des préconisations. Alors les médecins, évidemment, à chaque fois qu'il y a un événement de ce type, sont quand même des hommes de terrain, les médecins et de l'observation. On dit pendant longtemps, c'est pas une science de l'observation, c'est une science de l'ivresse, d'accord. Mais enfin, dès le 15e, 16e, il y a beaucoup de médecins qui essaient de charcuter les corps, de regarder de près ce qui se passe. Et donc, toute accélération d'épidémie, ça les intéresse bigrement parce que c'est un laboratoire. Un laboratoire, ça permet de faire de nouvelles observations et donc d'échafauder de nouvelles hypothèses, de nouvelles théories, qu'il s'agisse des épidémies de peste, qu'il s'agisse de l'arrivée de la syphilis en Europe, qu'il s'agisse de la variole, qu'il s'agisse du choléra, qu'il s'agisse des grippes. Je n'ai pas parlé de la grippe espagnole, parce que je garde ça pour mon étudiant préféré. Il termine, là, donc je ne parle plus de la grippe espagnole depuis 3 mois. il y a une efflorescence de publications parce qu'on peut faire des opérations. Voilà. Observation de terrain, essayer de croiser les preuves. D'une façon très expérimentale, à partir du début du 19e, c'est tout à fait important. Et distinguer donc l'agent causal et le vecteur, des vecteurs. Ce qui vient au 19e, le cœur des publications est là. Auparavant, pas trop, mais à partir du 19e siècle, vraiment, et même avant la bactério, l'agent causal et le vecteur, on essaie de les distinguer. Maintenant, c'est banal, mais un gros point. Alors, ah oui, j'avais quelque part le grand Saint-Antoine, quand même, responsable de l'entrée de la peste à Marseille en 1720. Nos religieuses de Québec en 1918 pour la grippe espagnole, se protégeant avec de beaux masques. Ça, c'est la grippe espagnole en France. Là, j'avais dit que j'en parlerais pas. Alors, ça, si vous voulez, ça, c'est extraordinaire, hein, parce qu'on est en pleine période de la bactériologie reine, quand même. Hein. Et d'une certaine manière, de temps en temps, on se comporte comme si on était à l'époque aériste. se protéger le souffle, lancer des fumées un petit peu partout pour assainir l'espace. Enfin, il y a des choses très troublantes. Voilà, petite conclusion maintenant, quand même. Donc, ce qui est, si vous voulez, impressionnant pour moi dans cette affaire, c'est que dans la course de vitesse engagée entre la progression de l'épidémie et puis la mise en place de dispositifs de protection, ce qui frappe, c'est le volontarisme. Le volontarisme forcené très tôt. Et puis l'inventivité administrative aussi, qu'il s'agisse des passeports sanitaires, des quarantaines, des lazarets, des cordons, et coercitif, parce qu'on n'hésite pas à dépenser énormément d'argent, de fonds, pour maintenir ces cordons sanitaires des mois et des mois. Alors, ce qui est frappant aussi à chaque fois, c'est que l'épidémie est productrice d'un sursaut de sécurité collective qui engendre une acceptabilité sociale meilleure du fait de l'exceptionnalité. On n'est pas loin, là, des phénomènes de guerre que vous observez, vous. C'est-à-dire que l'exceptionnel de la guerre rend acceptable des mesures étatiques, par exemple en France, pendant la Première Guerre mondiale, qui ne le seraient pas sans cela. Là, c'est un peu ça. Avec une simulation, toujours, à partir très tôt, mais surtout au 18e, 19e, pour la mise en place de normes hygiéniques et de respect des normes hygiéniques. Alors, ça va de la multiplication des égouts à la multiplication des bornes fontaines pour distribuer des cures, aux normes ensuite d'habitat, de conduite personnelle, etc. Et enfin, cette stimulation aussi pour les recherches médicales, comme je l'ai dit il y a un instant. Tout ça, en fait, contribue quand même aujourd'hui à ce qui n'est pas raisonnable, mais qui existe encore, c'est le maintien de l'horizon historique d'éradication des maladies épidémiques. Pas raisonnable parce que c'est un objectif inaccessible. Par définition, j'allais dire, aujourd'hui, on sait suffisamment comment fonctionne le monde du vivant pour dire que c'est simplement. On peut rechercher l'absinthe cause, peut-être, mais. Voilà. Et puis à l'inverse, on a vu qu'il y a des lenteurs relatives et même une indécision dans les particuliers savantes, je devrais dire. En particulier aussi parce qu'il y a l'expression de. On est en face d'expression de thèses opposées sur la nature de l'épidémie. Et puis qu'on se heurte très vite aux résistances des populations, voire à l'exacerbation des tensions sociales. Et ce n'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit précédemment sur le fait que l'exceptionnalité de la situation rendait l'acceptabilité sociale d'un certain nombre de mesures possibles et meilleures. C'est que cette acceptabilité sociale, elle connaît un seuil. Et sur certains types de mesures, il n'y a plus l'acceptabilité sociale. Non. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Et je suis navré d'avoir débordé. Je m'étais pourtant engagé à 45 minutes.
Merci beaucoup.